Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
La personne de Jésus-Christ demeure au cœur du message de la Bible et de la foi chrétienne. Il est donc essentiel de comprendre sa vie et son enseignement, ainsi que le sens de sa mort et de sa résurrection.
C'est dans cette optique que nous poursuivons aujourd'hui notre étude sur l'Évangile de Marc. Nous allons aborder le chapitre 13, mais avant de lire le texte pour aujourd'hui, je voudrais souhaiter la bienvenue à Robert, qui va nous aider à mieux comprendre l'enseignement de Jésus. Robert, bonjour.
Bonjour Yann, et bonjour à tous. Merci pour votre invitation.
Robert, avant de passer à notre lecture biblique, pouvez-vous nous aider à situer ce chapitre 13 dans le récit de l'Évangile de Marc?
Oui, bien sûr. Jésus s'est rendu à Jérusalem avec ses disciples pour participer à une fête religieuse, la Pâque. Là, en attendant que la fête ait lieu, Jésus enseigne les foules assemblées dans la cour du temple. Nous pouvons lire cet enseignement à partir du chapitre 11. Au chapitre 13, que nous allons bientôt commencer à étudier, nous apprendrons que Jésus est parti du temple pour s'entretenir avec ses disciples.
Et quel thème aborde-t-il avec eux?
Un thème qui intéresse beaucoup, celui de l'avenir. Oui, nous aimerions tous savoir ce que l'avenir nous réserve. Jésus a dévoilé certains éléments du futur. Il les enseigne surtout pour préparer ses disciples présents et à venir à mieux affronter les événements difficiles. Mais voilà, le moment est venu pour écouter le texte biblique. Cédons donc la parole à Sandra pour la lecture de Marc, chapitre 13, versets 1 à 8.
Comme Jésus sortait du temple, un de ses disciples lui dit « Regarde, maître, quel édifice magnifique !» Jésus lui répondit « Oui, regarde bien ces grandes constructions. Il ne restera pas une pierre sur une autre. Tout sera démoli. » Puis, il alla s'asseoir sur les pentes du mont des Oliviers, en face du temple. Pierre, Jacques, Jean et André le prirent à part et lui demandèrent « Dis-nous quand cela se produira-t-il ? Et à quel signe reconnaîtra-t-on que tous ces événements seront prêts de s'accomplir ?» Là-dessus, Jésus leur dit « Faites attention, que personne ne vous induise en erreur. Plusieurs viendront sous mon nom en disant « Je suis le Messie » et ils tromperont beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, ne vous laissez pas troubler, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des tremblements de terre et des famines, mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. »
Donc Jésus sort du temple et l'un de ses disciples exprime son admiration pour ce bel édifice.
Oui, le temple à Jérusalem était un monument magnifique. Toutefois, Jésus prononce des paroles surprenantes à son sujet.
Oui, il annonce que ce beau bâtiment sera un jour entièrement détruit.
Ce temple faisait la fierté du peuple d'Israël. Il était au centre de la pratique de la religion juive. On devait penser qu'il durerait à jamais. Cependant, Jésus annonce que l'avenir tient en réserve un désastre catastrophique qui va tomber sur la ville de Jérusalem et le peuple juif.
Il s'agit d'une prophétie, mais ces paroles de Jésus se sont-elles accomplies?
Oui, en l'an 70 de notre ère, l'armée romaine a pris la ville de Jérusalem et l'a entièrement anéantie. On peut littéralement affirmer que du temple, ils n'ont laissé aucune pierre.
Quelle tragédie!
C'est vrai, Yann. Cependant, certaines paraboles de Jésus suggèrent qu'un tel événement n'est que la conséquence de l'incrédulité du peuple, car la plupart des gens n'ont pas reconnu en Jésus le Messie promis. Cette destruction fait donc partie du jugement de Dieu sur le temple, sur la ville et sur le peuple.
Quelle dure réalité! Et les disciples voudraient savoir comment reconnaître si cet événement annoncé est proche.
Oui, et c'est là où ce chapitre commence à se compliquer. Car Jésus va effectivement parler de l'avenir et de ce à quoi les disciples doivent s'attendre. Toutefois, par moments, Jésus semble parler de l'avenir en général. Puis à d'autres, il semble évoquer la chute de Jérusalem. Et enfin, il fait plutôt allusion à son retour en gloire.
Le retour de Jésus-Christ, voilà une question qui préoccupe beaucoup de chrétiens.
Et c'est normal de s'en préoccuper, car nous devons nous y préparer. Cependant, ce chapitre 13 de l'évangile de Marc nous parle souvent de signes que nous pouvons rencontrer tout au long de cet âge présent, et non pas uniquement vers la fin du monde.
Expliquez-vous davantage, s'il vous plaît.
Dans le texte lu aujourd'hui, Jésus évoque plusieurs événements difficiles qui marqueront l'avenir. Mais il précise que la fin n'est pas encore arrivée et que ce ne sont que les premières douleurs de l'enfantement. Autrement dit, ces épreuves ne sont pas forcément les signes que la fin est proche, mais plutôt des difficultés rencontrées tout au long de cet âge présent.
Et que voulez-vous dire par les mots « cet âge présent » ?
Ces mots désignent la période de l'histoire qui s'étend de la résurrection de Jésus-Christ jusqu'à son retour. Comme nous attendons toujours le retour de Jésus, nous sommes encore dans l'âge présent. Et il ne nous appartient pas de savoir combien de temps cet âge durera.
Merci. Quels sont donc les signes ou les événements difficiles qui marquent, selon Jésus, notre âge présent?
Il y en a trois dans le texte lu aujourd'hui. Nous constatons aussi que jusqu'à nos jours, ces trois signes ont effectivement marqué l'histoire de l'humanité. Jésus évoque des bouleversements religieux, des bouleversements politiques et des bouleversements naturels. Jésus nous met en garde tout d'abord contre les faux prophètes et surtout ceux qui prétendent être le Christ. Ensuite, sur le plan politique, il nous avertit que les hommes seront toujours exposés aux conflits et aux guerres, aux tensions qui peuvent éclater à tout instant et faire place à la violence. Enfin, Jésus évoque le monde naturel et les catastrophes telles que les tremblements de terre et les famines, par exemple.
Et en examinant l'histoire de l'humanité à travers les 2000 ans qui nous séparent de l'époque où Jésus a prononcé ces paroles, nous constatons que ce que Jésus a déclaré est vrai.
Oui, mais selon Jésus, ces signes ne signifient pas forcément que la fin est proche.
Cependant, nous savons que Jésus reviendra un jour. Comment l'attendre alors?
La Bible nous enseigne beaucoup de leçons à ce sujet. Aujourd'hui, je vais me limiter à l'instruction trouvée dans le texte lu. La première chose que Jésus dit à ses disciples est « Faites attention que personne ne vous induise en erreur ». Autrement dit, il faut être vigilant et rester fidèle à l'enseignement de Jésus et à celui de la Bible. Cette exhortation est tout aussi pertinente de nos jours qu'il y a 2000 ans. Tant de soi-disant prophètes et enseignants annoncent de fausses doctrines. Certains tordent les paroles de Christ, d'autres nient les paroles de Christ, certains prétendent être le Christ. Il existe tant de religions de nos jours qui cherchent à nous séduire pour que nous suivions leur chemin. Enfin, les gens athées remettent la Bible en question. Ils affirment qu'il n'y a pas de Dieu. On rencontre tant d'idées spirituelles nouvelles, de mouvements religieux. Chacun crée de la confusion et sème le doute. Devant cette réalité, Jésus nous exhorte à rester vigilants et à faire preuve du discernement afin de demeurer attachés aux vérités fondamentales de la foi chrétienne.
Merci Robert pour cette exhortation importante.
Je vous en prie, Yann. Alors, au revoir à tous et à bientôt.
Merci Robert. Nous allons à présent commencer notre courte méditation basée sur le même thème. Comment attendre le retour de Jésus-Christ? L'apôtre Pierre, présent avec Jésus, lors de son discours sur l'avenir du monde, a aussi écrit à ce sujet au chapitre 3 de sa deuxième épître. Claude va nous aider à comprendre ce passage biblique. Mais d'abord, cédons la parole à Sandra pour la lecture des versets 3 à 7.
Sachez tout d'abord que dans les derniers jours, des moqueurs viendront, qui vivront au gré de leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi en ridicule en disant « Eh bien, il a promis de venir, mais c'est pour quand ? Nos ancêtres sont morts, et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. » Mais il y a un fait que ces gens oublient délibérément. c'est que Dieu, par sa parole, a créé autrefois le ciel et la terre. Il a séparé la terre des eaux et il l'a rassemblée du milieu des eaux. De la même manière, Dieu a détruit le monde d'alors par les eaux du déluge. Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jour du jugement, où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis. C'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour.
Bonjour, chers amis. Les gens se moquent-ils de votre foi? Rendent-ils ridicule en votre présence la promesse du retour de Jésus-Christ? Alors vous n'êtes pas seul, car déjà à l'époque où l'apôtre Pierre écrivait, les chrétiens étaient confrontés à de telles attitudes. Et nous voici presque 2000 ans plus tard, et Jésus n'est pas encore revenu. Il y a de quoi se poser des questions, nourrir l'incrédulité des moqueurs. Comme ils peuvent l'affirmer, la vie continue et rien ne semble changer. Pierre écrit alors pour fortifier la foi et l'espérance des chrétiens qui, face aux moqueries, commencent à douter du retour de Jésus-Christ. Ainsi, nous nous pencherons pendant plusieurs émissions sur ce que Pierre déclare à ce sujet. Dans un premier temps, Pierre nous oriente vers le passé et non vers l'avenir. Il rappelle le déluge, cette inondation qui a balayé la planète, épargnant une seule famille, Noé et ses proches. Pourquoi citer le déluge? Parce qu'à l'époque, les gens se moquaient de Noé. Ce dernier avertissait ses contemporains, leur annonçant que Dieu allait tout détruire par les eaux. Tous restaient incrédules, sauf Noé et sa famille, qui ont construit l'arche, leur permettant de rester sains et saufs. À l'époque de Noé, Dieu a tenu ses promesses. Il a réalisé ses paroles de jugement. Le déluge a pratiquement tout détruit. Pourtant, ses promesses de salut envers Noé et sa famille se sont mises en place. Noé et ses proches ont échappé au déluge. De nos jours, le message du retour de Jésus-Christ est à la fois un message de jugement pour les incrédules et un message de salut pour quiconque place sa foi en Jésus. Dieu a tenu sa parole dans le passé, il n'y a aucune raison qu'il ne la tienne pas dans l'avenir. Tenez donc ferme et gardez votre espérance en Jésus.
Merci Claude. Nos deux invités seront de retour la prochaine fois pour poursuivre nos deux séries qui oriente nos pensées vers l'avenir. En attendant de vous retrouver, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.